Chapitre 11. Le voilà lâché, gare. Une tardive et sombre nuit d'automne s'abattait sur la Saône. La rivière, pareille à un miroir souillé suspendu dans un lieu sombre, réfléchissait lourdement les nuages. Ça et là, les bords du fleuve se penchaient en avant, comme s'ils eussent été à la fois curieux et effrayés de voir leur image s'assombrissant dans l'eau. Le pays plat qui environne Châlons s'étendait comme un long et monotone tapis, découpé de temps en temps par une rangée de peupliers qui se détachaient sur ce crépuscule couronné. Les bords de la Saône étaient boueux et solitaires. La nuit descendait rapidement. Un homme, qui s'avançait lentement dans la direction de Châlons, était le seul être animé visible dans ce paysage. Cain, lui-même, n'aurait pas été plus isolé ni plus évité. Un vieux havresac de peau de mouton sur le dos, la main armée d'un gros bâton coupé dans quelques bois et dépouillé de son écorce. Couvert de boue, les pieds meurtris, les souliers et les gâtres déchirés, les cheveux et la barbe incultes, le manteau rejeté sur l'épaule et ses vêtements trempés par la pluie, il s'avançait en boitant, lentement et péniblement. On eût dit que les nuages fuyaient devant lui, que le vent gémissait et que l'herbe frissonnait à son approche, que le mystérieux clapotement de l'eau l'accusait à voix basse, que sa présence enfin jetait le trouble dans cette orageuse nuit d'automne. Il lançait un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, d'un air sombre mais craintif, s'arrêtant parfois, se retournant et regardant autour de lui. Puis il continuait son pénible voyage, boitant et grommelant. « Au diable cette plaine sans fin ! Au diable ces pierres tranchantes comme une lame de couteau ! Au diable cette sinistre obscurité qui vous enveloppe et vous donne le frisson ! Je vous hais !» Et au regard menaçant qu'il lança autour de lui, on pouvait deviner qu'il aurait volontiers fait sentir sa haine s'il en avait eu le pouvoir. Il s'avança encore de quelques pas et, regardant au loin devant lui, s'arrêta de nouveau. « Moi, j'ai soif, je tombe de faim et de fatigue. Vous, imbécile, là-bas où j'aperçois des lumières, vous mangez, vous buvez, vous vous chauffez. Si je pouvais mettre votre ville à sac, je vous ferais payer ça, mes enfants. » Mais les dents qu'il montrait à la ville et le poing qu'il levait contre la ville n'abrégeaient pas la route. La faim, la soif et la fatigue n'avaient fait que s'accroître lorsque ses pieds touchèrent le pavé raboteux de Châlons et qu'il s'arrêta pour regarder autour de lui. Voilà l'hôtel avec sa porte cochère et ses parfums de cuisine appétissante. Voilà le café avec ses croisées lumineuses et son bruit de domino. Voilà la boutique du teinturier avec ses banderoles d'étoffe rouge pour enseigne. Voilà le magasin du bijoutier avec ses boucles d'oreilles et ses ornements d'hôtel. Voilà le débit de tabac avec son groupe animé de pratiques en pantalon de garance qui sortent la pipe à la bouche. Voilà les puanteurs de la ville, la boue et les ordures des ruisseaux. Les lanternes sans éclat pendues en travers de la rue et l'énorme diligence avec sa montagne de bagages et ses 6 chevaux gris aux queues retroussées qui s'apprêtent à partir stationné devant le bureau. Mais comme il n'y avait là aucun petit cabaret, assez modeste pour un voyageur peu chargé d'écus, il lui fallut, avant d'en trouver un, tourner un coin obscur où le pavé était jonché de feuilles de choux écrasées, aux environs de la fontaine publique, sous les pieds des femmes qui n'avaient pas encore fini d'emplir leurs seaux. Là, dans une rue de traverse, il trouva une modeste auberge au point du jour. Les rideaux empêchaient de voir à l'intérieur. Mais le point du jour paraissait bien éclairé et bien chauffé, et des inscriptions lisibles, ainsi que les accessoires artistiques de queue et de billes, annonçaient qu'on pouvait y jouer au billard, y manger, y boire, y loger à pied et à cheval. Qu'on y trouvait bon vin, bonne liqueur, bonne eau-de-vie. Le voyageur tourna le bouton de la porte du point du jour et entra en boitant. En entrant, il porta la main à son chapeau mou et décoloré pour saluer quelques habitués qui se trouvaient rassemblés dans la salle. 2 d'entre eux jouaient au domino à une des petites tables. 3 ou 4 autres, assis autour du poêle, causaient en fumant leur pipe. Pour le moment, le billard qui occupait le milieu de la salle était libre. L'hôtesse du point du jour trônait dans son petit comptoir de plomb, au milieu de ses bouteilles de sirop nuageux, de ses paniers de gâteaux et travaillait à quelque ouvrage d'aiguille. Se dirigeant vers une petite table non occupée, dans un coin de la salle derrière le poêle, il posa à terre son havresac et son manteau. En se redressant, après avoir terminé ce premier préparatif d'installation, il trouva l'hôtesse auprès de lui. « On peut loger ici ce soir, madame ?»«
Certainement, » répondit l'hôtesse d'une voix élevée, chantante et encourageante.
« Bon, on peut dîner ou souper, si vous aimez mieux ?»«
Certainement, » s'écria l'hôtesse avec la même intonation.
« Dépêchons alors, madame, s'il vous plaît. Donnez-moi à manger aussi vite que vous pourrez, et apportez-moi du vin tout de suite. Je n'en puis plus.
Il fait vilain temps, monsieur. »
« Un sacré temps. Et la route a dû vous sembler longue.
Une sacrée route !»
Sa voix enrouée lui fit défaut, et il s'accouda à la table, la tête appuyée sur ses mains, pendant qu'on lui apportait du comptoir une bouteille de vin. Ayant rempli et vidé son verre deux fois de suite, et cassé une croûte du grand pain qu'on avait posé devant lui, avec la nappe et la serviette, l'assiette à soupe, le sel, le poivre et l'huile, il s'appuya le dos contre le coin du mur, s'allongea sur le banc où il était assis, et commença à grignoter son pain en attendant que son repas fût prêt. Il y avait eu une interruption momentanée dans la conversation entamée autour du poêle, comme il arrive toujours en pareille compagnie, à l'arrivée d'un étranger qui attire naturellement l'attention des causeurs et occasionne des distractions. Mais elle ne dura pas longtemps, et les habitués, après avoir regardé le nouveau venu, reprirent leur entretien interrompu.
« Voilà pourquoi, dit l'un d'eux, terminant une histoire qui touchait à sa fin, voilà pourquoi on a dit que le diable était lâché. »
L'orateur était le grand Suisse de l'Église, et il apportait dans cette discussion quelque chose de l'autorité de l'Église, puisqu'il s'agissait du diable. L'hôtesse, après avoir rappelé son mari, qui remplissait les fonctions de cuisinier du point du jour, et donné ses ordres pour le repas du voyageur, était retournée à son comptoir, où elle avait repris son ouvrage. C'était une petite femme vive, soigneuse et intelligente, coiffée d'un ample bonnet et montrant un peu trop haut le haut de ses bas. Elle se mêla à la conversation, en débutant par plusieurs signes de tête animée, mais sans lever les yeux de son ouvrage.
« Ah, ciel !» s'écria l'hôtesse, lorsque le bateau est arrivé de Lyon et qu'on a répandu le bruit que le diable était lâché dans les rues de Marseille, il y a des gopes-mouches qui ont cru cela. Mais pas moi, non, non !»«
Madame, vous avez toujours raison, » répondit le grand Suisse. « Mais vous deviez être bien enragée contre cet homme, madame. »«
Ah, mais oui !» répliqua l'hôtesse, cessant de regarder son ouvrage, pour ouvrir de grands yeux et jeter sa tête en arrière.
« Et c'est tout simple. »«
C'était un mauvais sujet ?»«
C'était un misérable meurtrier, » dit l'hôtesse, « et il méritait bien le sort auquel il a eu la chance d'échapper. C'est bien dommage. »«
Un instant, madame, raisonnons un peu, » répliqua le Suisse, tournant son cigare entre ses lèvres, de l'air d'un homme qui va soutenir un argument. Peut-être ce malheureux a-t-il été entraîné par sa destinée, peut-être a-t-il été le jouet des circonstances. Il n'en est pas moins possible qu'il ait eu et qu'il ait encore une foule de bonnes qualités, le tout est de les découvrir. La philosophie philanthropique nous apprend. Les autres membres du petit groupe rassemblés autour du poêle témoignèrent par un murmure qu'ils s'opposaient à l'emploi de ces mots formidables. Les deux joueurs de domino cessèrent un moment leur partie, comme pour protester contre l'introduction, même verbale, de la philosophie philanthropique dans le café du point du jour.
« Laissez là votre philanthropie !» s'écria l'hôtesse, souriant et avec des signes de tête plus animés que jamais.
« Écoutez donc, je ne suis qu'une femme, moi. Je ne sais pas ce que c'est que votre philosophie philanthropique. Mais je sais ce que j'ai vu et observé dans le monde où je me trouve. » Et je peux vous dire une chose, mon ami, c'est qu'il y a des hommes, et des femmes aussi, malheureusement, chez qui on ne trouve rien de bon. Qu'il y a des gens qu'il faut détester de tout cœur. Qu'il y a des gens qu'on doit traiter comme des ennemis de l'humanité. Qu'il y a des gens qui n'ont pas un cœur d'homme, et qu'on doit écraser comme des bêtes féroces, afin d'en débarrasser le monde. Il y en a fort peu, je l'espère. Mais j'ai vu, dans le monde où je me trouve, et même dans mon petit point du jour, qu'il existe de ces gens-là, et je ne doute pas que cet homme, j'oublie son nom, ne soit du nombre. Le discours plein de vivacité de l'hôtesse fut plus favorablement accueilli par les habitués du point du jour qu'il ne l'eût été par les aimables défenseurs en titre de la classe contre laquelle elle paraissait avoir des préjugés si déraisonnables. « Ma foi, si votre philosophie philanthropique, » continua l'hôtesse, posant son ouvrage sur le comptoir et se levant pour aller prendre la soupe de l'étranger des mains de son mari qui venait d'apparaître à une petite porte de côté, « si votre philanthropie doit nous mettre à la merci de ces gens-là, en transigeant le moins du monde avec eux en parole ou en action, vous pouvez la garder. Pour moi, je n'en donnerai pas un sou. » Eh bien, reprit le premier orateur, revenons à la question. Laissons le reste de côté, messieurs. C'est seulement parce que cet homme a été acquitté par le jury que les Marseillais ont crié qu'on avait lâché le diable. Voilà comment la phrase a commencé à circuler. Voilà tout ce qu'on a voulu dire, rien de plus.
Comment le nomme-t-on ? Demanda l'hôtesse. Pirot, n'est-ce pas ?
Rigaud, madame, répondit le Suisse.
Rigaud, c'est juste.
Le potage du voyageur fut suivi d'un plat de viande, puis d'un plat de légumes. Il mangea tout ce qu'on mit devant lui, vida sa bouteille de vin, se fit servir du café et du rhum, et fuma une cigarette en buvant sa demi-tasse. À mesure qu'il oubliait sa fatigue, il se mettait aussi plus à son aise, et il finit par se mêler à une conversation insignifiante, avec des airs de condescendance protectrice, comme s'il eût été d'une condition bien supérieure à celle qu'annonçait son costume. Peut-être la société avait-elle d'autres engagements ailleurs, peut-être ne se sentait-elle pas digne de ce monsieur. Dans tous les cas, elle se dispersa peu à peu, et n'étant pas remplacée, elle laissa son nouveau protecteur en possession du point du jour. L'hôte faisait résonner les ustensiles de cuisine, l'hôtesse cousait tranquillement, et le voyageur, restauré, fumait auprès du poêle où il chauffait ses pieds déchirés par la route.
« Pardon, madame, mais il paraît que ce Birot, Rigaud, monsieur,
Rigaud, pardon encore une fois, que ce Rigaud a encouru votre disgrâce. Comment cela ?»
L'hôtesse, qui avait déjà varié dans ses jugements en elle-même, trouvant tantôt que ce voyageur était un joli garçon, tantôt qu'il avait mauvaise mine, en remarquant son nez qui s'abaissait et sa moustache qui remontait, fut plus disposée que jamais à s'en tenir à sa dernière opinion.
« Rigaud, répondit-elle, était un criminel qui avait tué sa femme.
« Tiens, tiens, mort de ma vie, voilà un assez vilain criminel.
Mais comment savez-vous ça ?
Tout le monde le sait.
Ah, et pourtant il a échappé à la justice.
Monsieur, la loi n'a pas pu trouver assez de preuves. Du moins, c'est ce qu'a dit la loi.
Néanmoins, tout le monde sait qu'il a commis le crime.
Le peuple le savait si bien qu'il a voulu le mettre en morceaux.
Avec ça que les Marseillais vivent tous en si bonne intelligence avec leurs propres femmes, dit le voyageur.
Ha, ha.
L'hôtesse du point du jour le regarda de nouveau et fut plus que jamais confirmée dans sa dernière décision. Il avait pourtant une jolie main, et il savait bien la faire voir, ce qui donna encore une fois à penser à la dame qu'il n'avait pas trop mauvaise mine après tout.
« Et savez-vous, madame, ou bien quelqu'un de ces messieurs savait-il ce qu'est devenu ce Ribaud ?»
L'hôtesse secoua la tête, jusqu'alors elle s'était contentée de lui imprimer un mouvement vertical en parfaite harmonie avec ses paroles, et répondit qu'au dire des habitués du point du jour, et d'après les journaux, on le retenait en prison dans son propre intérêt.
« Quoi qu'il en soit, ajouta-t-elle, il a échappé à la punition qu'il mérite. C'est bien dommage. »
Le voyageur la regarda en achevant de fumer sa dernière cigarette, tandis que la dame penchait la tête sur son ouvrage, avec une expression qui aurait probablement dissipé tous ses doutes et aurait permis à l'hôtesse de se former une opinion bien arrêtée sur sa bonne ou mauvaise mine. Mais elle n'en fit rien. Lorsqu'elle releva la tête, l'expression avait disparu. La petite main caressait la moustache hérissée.
« Peut-on demander à monter à sa chambre, madame ?»«
Très volontiers, monsieur.
Hola, mon mari.
Mon mari va vous y conduire. Il s'y trouve déjà un voyageur endormi qui s'est retiré de très bonne heure car il tombait de fatigue. Mais c'est une grande chambre à deux lits et on pourrait y coucher 20 personnes. »
L'hôtesse du point du jour donna ses explications d'une voix d'oiseau qui gazouille,
s'interrompant à plusieurs reprises pour se retourner vers la porte de la cuisine et crier « Hola, mon homme !» Mon homme se montra enfin en disant « Me voici, ma femme !» et coiffé de son bonnet de coton officiel, éclaira dans un escalier raide et étroit, le voyageur portant lui-même son manteau et son havresac, après avoir souhaité bonsoir à l'hôtesse, et fait une allusion flatteuse au plaisir qu'il aurait à la revoir le lendemain. La chambre à coucher était en effet une grande salle, grossièrement planchéiée, avec un plafond où l'on voyait les poutres à découvert et deux lits placés dans les coins opposés. Là, mon homme, lançant un regard oblique au voyageur qui se baissait pour défaire son havresac, lui dit d'un ton assez rude « Le lit à droite !» et le laissa. L'aubergiste, qu'il fût bon ou mauvais physionomiste, avait jugé sans hésitation que sa nouvelle pratique avait une mine suspecte. Ce dernier jeta un regard plein de mépris sur les draps propres mais de grosses toiles qu'on lui avait préparés et, s'asseyant sur une chaise de paille, tira son argent de sa poche et se mit à le compter dans sa main. « Il faut bien manger, » murmura-t-il, « mais le diable m'emporte s'il ne faudra pas que je mange demain aux dépens d'un de mes semblables. » Tandis qu'il réfléchissait sur sa chaise, soupesant machinalement sa monnaie dans la paume de sa main, la respiration bruyante du voyageur endormi frappa si régulièrement son oreille qu'elle attira son attention de ce côté. Le dormeur était chaudement couvert et avait tiré le rideau blanc au chevet de son lit, de sorte qu'on pouvait bien l'entendre, mais non le voir. Cette respiration régulière et sonore continuait à se faire entendre, tandis que l'autre ôtait ses guêtres et ses souliers usés, et même après qu'il eut retiré son habit et sa cravate, finit par exciter sa curiosité et par lui inspirer le désir de voir le visage de son camarade de chambre. Le voyageur éveillé se glissa un peu plus près du lit du voyageur endormi jusqu'à ce qu'il fût arrivé tout contre. Mais avec tout cela, il ne put pas satisfaire sa curiosité, car l'autre avait tiré le drap sur son nez. La respiration régulière continuait toujours. Il avança sa main lisse et blanche. Quelle traîtresse de petite main, comme elle savait se glisser avec adresse. Vers le drap, qu'il souleva doucement. « Mort de ma vie !» dit-il tout bas en se reculant. « C'est Cavaletto !» Le petit Italien, dont le sommeil avait peut-être été instinctivement troublé par la présence furtive de son ex-compagnon, cessa ses aspirations régulières et ouvrit les yeux. D'abord, ses yeux, tout ouverts qu'ils étaient, ne parurent pas éveillés. Il resta quelques secondes à contempler d'un air hébété son camarade de prison. Puis tout à coup, avec un cri de surprise et d'alarme, il sauta à bas du lit. « Silence ! Qu'est-ce qui te prend donc ? Tiens-toi tranquille, te dis-je. C'est moi. Tu ne me reconnais pas ?» Mais Jean-Baptiste, écarquillant les yeux sans rien regarder, laissa échapper une foule d'invocations et d'exclamations, se recula en tremblant vers un coin de la chambre, passa son pantalon, attacha autour de son cou les manches de sa redingote et manifesta un désir très clair de s'enfuir plutôt que de renouveler connaissance. Son ancien camarade, s'apercevant de ses dispositions peu aimables, se dirigea à reculons vers la porte, contre laquelle il appuya les épaules. « Cavaletto, réveille-toi, mon garçon. Frotte-toi les yeux et regarde-moi. Ne me donne pas le nom que tu me donnais autrefois. Pas ce nom-là. Lagné, entends-tu ? Je m'appelle Lagné. » Jean-Baptiste, le regardant avec des yeux effarés, recommença 10 fois de suite ce geste national et négatif qui consiste à lever le bras et à ramener l'index en arrière, comme s'il était bien décidé à nier d'avance une bonne fois tout ce que l'autre pouvait avoir à lui dire pendant le reste de ses jours. « Cavaletto, donne-moi la main. Tu reconnais Lagné, le gentilhomme. Touche la main d'un gentilhomme. » Docile comme autrefois, au ton d'autorité condescendante adopté par Lagné, Jean-Baptiste, qui n'était pas encore bien solide sur ses jambes, s'avança et mit la main dans celle de son patron. Le protecteur se mit à rire, lui serra la main, la secoua en l'air et la lâcha. « On ne vous a donc pas... » bégaya Jean-Baptiste. « Rasé ? Non. Regarde-moi ça !» s'écria Lagné, tournant la tête à droite et à gauche, aussi solide que la tienne. Jean-Baptiste, avec un léger frisson, regarda tout autour de la chambre comme pour se rappeler où il était. Son patron saisit cette occasion pour fermer la porte à clé, puis il s'assit sur son lit. « Tiens, » reprit-il, montrant ses souliers et ses guêtres, « tu vas me dire que j'ai là une piteuse chaussure pour un gentilhomme. C'est égal. Tu verras comme je vais réparer cela en un rien de temps. Allons, assois-toi. Reprends ton ancienne place. » Jean-Baptiste, qui ne paraissait rien moins que rassuré, s'assit par terre auprès du lit, éteint les yeux fixés sur son compagnon. « À la bonne heure !» s'écria Lagnier. « Au moins, nous ne sommes plus dans ce satané trou de là-bas, hein ? Quand est-ce que tu en es sorti ? 2 jours après vous, mon maître. Comment es-tu venu ici ? On m'a conseillé de ne pas rester à Marseille, de sorte que j'ai quitté la ville tout de suite. Et depuis, j'ai voyagé par-ci, par-là. J'ai trouvé à gagner quelques sous à Avignon, à Pont-Esprit, à Lyon, sur le Rhône et sur la Saône. » Tout en parlant, il dessinait rapidement avec son doigt hâlé l'itinéraire de sa route sur la poussière du parquet. « Et où vas-tu maintenant ?»« Où je vais, mon maître ?»« Oui. » Jean-Baptiste parut vouloir éluder cette question sans trop savoir comment. « Perbacco, » dit-il enfin, avec contrainte, comme s'il n'eût pas voulu lâcher cet aveu, « j'ai quelquefois eu l'idée d'aller à Paris et peut-être même en Angleterre. » Cavaletto, je te le dis en confidence, moi aussi je me rends à Paris et peut-être en Angleterre. Nous voyagerons ensemble. » Le petit Italien hocha la tête et montra ses dents. Néanmoins, il ne paraissait pas tout à fait convaincu que ce fût là un arrangement des plus désirables. « Nous voyagerons ensemble, » répéta Lagnier. « Tu verras comme il me faudra peu de temps pour reconquérir mes droits de gentilhomme, et tu en profiteras. Est-ce entendu ? Sommes-nous d'accord ? Certainement, certainement, » répondit le petit Italien. « Dans ce cas, tu sauras, avant que je m'endorme, et en 2 mots, car j'ai besoin de dormir, comment il se fait que tu me trouves ici, moi, Lagnier. Rappelle-toi bien cela, mais surtout pas notre nom. Altro, altro, Paris. » Avant que Jean-Baptiste eût pu prononcer la seconde syllabe de ce nom, son camarade lui avait mis la main sous le menton et lui avait fermé la bouche d'un air féroce. « Tonnerre ! À quoi penses-tu ? Veux-tu donc me faire écharper et lapider ? Et toi aussi pars-tu le marché ? Ce qui ne manquerait pas d'arriver, car tu ne t'imagines sans doute pas qu'en tombant sur moi, on irait épargner mon compagnon de geôle. Ne l'espère pas, au moins. » Lorsqu'il relâcha le menton de son ami, ses traits avaient une expression peu agréable qui fit comprendre à Cavaletto que si on venait à écharper ou à lapider quelqu'un, M. Lagnier s'arrangerait pour désigner son ami à l'attention publique afin qu'il en eût sa bonne part. Il se rappela que M. Lagnier était un gentilhomme cosmopolite, au-dessus des scrupules et des préjugés. « Je suis un homme contre lequel la société s'est montrée bien injuste depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, » poursuivit Lagnier. « Tu sais que je suis brave et sensible, et que mon caractère est de vouloir toujours être le maître. Comment la société a-t-elle respecté en moi ses qualités ? Elle m'a hué dans les rues. On a été obligé de me protéger sur mon chemin contre des hommes, et surtout contre des femmes, disposées à m'attaquer avec toutes les armes qui leur tombaient sous la main. J'ai dû rester en prison afin de ne pas être mis en pièces. Il a fallu cacher le lieu de ma détention, de peur qu'on ne vînt m'en arracher et m'assommer de 1000 coups. Il a fallu me mettre dans une charrette, me conduire hors de Marseille au beau milieu de la nuit et me faire faire plusieurs lieues emballées dans de la paille. Il eût été dangereux pour moi de me hasarder dans le voisinage de ma propre maison. Et avec quelques sous dans ma poche, comme un mendiant, il m'a fallu aller à pied, à travers une boue ignoble et par un temps affreux, depuis le jour où je suis descendu de mon équipage. Aussi, vois comme mes pieds sont meurtris. Telles sont les humiliations que la société m'a fait subir, à moi qui possède les qualités que tu connais. Mais la société me le paiera. » Il dit tout cela à l'oreille de son compagnon et la main devant la bouche. Aujourd'hui encore, continua-t-il, sans changer d'attitude, jusque dans cette mesquine auberge, la société me poursuit. Madame me calomnie et ses pratiques me diffament. Moi qui ai des manières et des talents de gentilhomme qui devrais les confondre. mais les torts que la société s'est donnés avec moi, j'en conserve le souvenir dans cette poitrine de gentilhomme. » Jean-Baptiste prêtant une oreille attentive aux paroles étouffées et à la voix enrouée de son interlocuteur, répondait de temps à autre « Certes, certes !» hochant la tête et fermant les yeux, comme s'il eût été impossible de formuler contre la société une accusation plus candide et plus juste. « Mets mes souliers dans ce coin, » continua Lagné, « étends mon manteau auprès de la porte afin qu'il sèche. Prends mon chapeau. » Cavaletto obéit à ses ordres à mesure qu'il les reçut. « Et voilà le lit auquel la société me condamne. Ah, très bien !» Tandis que M. Lagné s'étendait tout de son long sur cette couche indigne de lui, la tête entourée d'un foulard tout déchiré, et ne montrant au-dessus des couvertures que sa physionomie sinistre, Jean-Baptiste songea à ce qui avait failli arriver pour empêcher cette moustache de se relever et ce nez de s'abaisser comme il faisait en ce moment. « Allons, voilà que le hasard m'a encore jeté dans ta société. Par le ciel, tant mieux pour ça, tu en profiteras. J'ai besoin d'un long repos. Tu ne me réveilleras pas demain matin, entends-tu ? » Jean-Baptiste répondit qu'il le laisserait dormir en paix et, lui souhaitant une bonne nuit, souffla la chandelle. Il était naturel de supposer que la première chose que l'Italien allait faire serait de se déshabiller. Mais il fit tout le contraire et s'habilla des pieds à la tête, à l'exception de ses souliers. Sa toilette achevée, il s'allongea sur son lit, ramena la couverture sur lui et, gardant sa redingote toujours attachée à son cou, se disposa à passer ainsi la nuit. Lorsque Cavaletto se réveilla en sursaut, le véritable point du jour commençait à jeter un coup d'œil sur l'auberge à laquelle il avait servi de parrain. Le petit Italien se leva, tourna la clé dans la serrure avec beaucoup de précaution et descendit, ses souliers à la main. Il n'y avait encore rien d'éveillé, si ce n'est un parfum de café, de vin, de tabac et de sirop, et le petit comptoir de madame, mais solitaire. Comme Cavaletto avait réglé avec madame la veille au soir, et qu'il ne tenait pas à rencontrer quelqu'un, tout ce qu'il demandait, c'était de pouvoir mettre ses souliers, son havresac, ouvrir la porte et se sauver. C'est ce qu'il fit. Aucun bruit, aucune voix ne se fit entendre lorsqu'il ouvrit la porte. Nulle tête de méduse entourée d'un foulard déchiré n'apparut à la croisée d'en haut. Lorsque le disque du soleil se fut montré tout entier au-dessus du plat horizon, faisant scintiller la longue route boueuse et pavée avec sa monotone avenue de petits arbres, un point noir s'avançait le long de ce chemin, pataugeant au milieu des brillantes flaques d'eau laissées par la pluie. Ce point noir n'était autre que Jean-Baptiste Cavaletto qui fuyait son protecteur. Chapitre 12. La cour du cœur saignant. La cour du cœur saignant est située dans Londres même, bien qu'elle se trouve sur la vieille route rurale, conduisant au faubourg célèbre où, du temps de William Shakespeare, auteur et acteur, le roi avait des maisons de chasse, mais où il n'existe plus aujourd'hui de gibier que pour les chasseurs d'hommes. L'endroit avait beaucoup perdu et son aspect était bien changé, mais il avait néanmoins conservé un reflet de son ancienne splendeur. Deux ou trois énormes blocs de cheminée au-dessus des toits, quelques vastes et sombres chambres qui avaient échappé au sort général et qu'on s'était abstenu de murer ou de subdiviser, de façon que personne ne pût se faire une idée de leur dimension primitive, donnaient un certain caractère à la cour. Elle était habitée par de pauvres gens qui s'installaient au milieu de ces gloires éclipsées, comme les Arabes du désert déploient leurs tentes au milieu des pierres tombées des pyramides. Dans tous les cas, la cour avait un caractère. C'était là une conviction romanesque que partageaient tous les habitants de l'endroit comme membres d'une même famille. L'ambitieuse cité semblait avoir fait gonfler jusqu'au sol où elle s'élevait, car ce sol s'était tellement exhaussé autour de la cour du cœur saignant qu'on descendait au moyen d'une quantité de marches dont le besoin ne se faisait nullement sentir autrefois, et on en sortait par une voûte peu élevée, donnant sur un dédale de misérables rues qui tournait et retournait sur elle-même pour regagner par une marche tortueuse le niveau de la ville. Vers cette sortie de la cour et au-dessus de la voûte se trouvait l'atelier de construction de Daniel Deuss, où le choc régulier du métal contre le métal imitait les battements douloureux d'un cœur de fer. Les avis des habitants de la cour étaient partagés quant à l'étymologie de ce nom de « cœur saignant ». Les gens positifs s'en tenaient à la tradition d'un meurtre. Les locataires doués de plus de sensibilité et de plus d'imagination, catégorie qui comprend tout le beau sexe de l'endroit, restaient fidèles à la légende d'une jeune fille du temps jadis, incarcérée dans sa chambre par un père barbare, parce qu'elle voulait garder sa foi à son bien-aimé, et refusait d'épouser le chevalier qu'on lui proposait pour mari. La légende racontait comment cette jeune fille avait été vue derrière les barreaux de sa fenêtre, murmurant une complainte amoureuse qu'elle avait chantée jusqu'au jour de sa mort, et dont chaque couplet se terminait par un « cœur saignant, saignant jusqu'à la dernière goutte ». Les partisans de l'assassinat objectaient qu'il était de notoriété publique que le dit refrain avait été composé par une brodeuse aux plumes ties, vierge et romanesque, qui habitait encore la cour. Néanmoins, comme toute légende populaire doit parler au cœur des masses, et comme il existe plus d'amoureux que d'assassins, et quelque méchants que nous soyons, il faut espérer que la Providence voudra bien maintenir les choses sur ce pied, l'histoire du cœur saignant, saignant toujours, prévalut à une très forte majorité. Ni l'un ni l'autre parti ne voulut écouter les antiquaires qui ouvrirent dans le voisinage des cours fort savants pour démontrer que le cœur saignant représentait tout simplement les armes parlantes d'une ancienne famille à laquelle cette propriété avait appartenu autrefois. Et lorsqu'on songe à l'épais gravier que renfermait le monotone sablier que ces gens étaient condamnés à retourner pendant toute la durée de leur existence, on conviendra qu'ils avaient raison de ne pas se laisser dépouiller de cette paillette d'or que la poésie faisait briller au milieu du sable grossier de leur existence. Daniel Doyce, M. Meagles et Clennam descendirent les marches et pénétrèrent dans la cour, qu'ils traversèrent entre deux rangées de portes ouvertes, toutes abondamment pourvues d'enfants chétifs, berçant des enfants plus lourds qu'eux. Ils arrivèrent à l'autre extrémité, où se trouvait la porte de sortie. Arthur Clennam s'arrêta alors pour regarder autour de lui, en quête du domicile de Plornish, plâtrier, dont Daniel Doyce, selon la coutume des habitants de Londres, n'avait jamais vu ni entendu le nom, quoiqu'il demeurât à sa porte. Cependant, ce nom sautait aux yeux, ainsi que l'avait affirmé la petite Dorrit. On le lisait dans un coin de la cour, au-dessus d'une entrée couverte d'éclaboussures de chaux, où Plornish gardait son échelle et quelques tonneaux. La dernière maison du cœur saignant, celle que la jeune fille avait indiquée comme étant la demeure de Plornish, était une grande maison louée en détail à divers locataires. Mais l'ingénieux Plornish annonçait qu'il habitait le rez-de-chaussée par le moyen d'une main peinte au-dessus de son nom, et dont l'index, que l'artiste avait orné d'une bague de prix et d'un ongle admirablement dessiné et taillé à la dernière mode, dirigeait les visiteurs vers cet appartement. Arthur Clennam, après avoir pris rendez-vous avec M. Meagles, souhaita le bonjour à ses compagnons, se dirigea seul vers l'entrée en question et frappa à la porte du rez-de-chaussée. Au bout de quelques minutes, la porte fut ouverte par une femme qui tenait un enfant dans ses bras et qui se servait de sa main libre pour rajuster à la hâte le haut de sa robe. Cette dame était Mme Plornish, et ce geste maternel était le geste auquel Mme Plornish se livrait presque tout le temps qu'elle restait éveillée. « Monsieur Plornish y est-il ?»« Ma foi, monsieur, répondit Madame Plornish, dame très polie, pour ne pas vous tromper, il est allé chercher de l'ouvrage. »« Pour ne pas vous tromper » était la phrase favorite de Madame Plornish. Sous aucun prétexte, elle n'aurait trompé qui que ce fût, mais elle n'en avait pas moins la manie d'intercaler dans sa conversation cette clause restrictive. Pensez-vous qu'il rentre bientôt? Je pourrais l'attendre. Voilà une demi-heure qu'il devrait être revenu, dit Madame Plornish. Entrez, monsieur. Arthur entra dans une salle un peu sombre et qui manquait d'air, bien qu'elle fût assez élevée, et s'assit sur la chaise que Madame Plornish lui offrit. Pour ne pas vous tromper, monsieur, je suis sensible à votre politesse, remarqua Madame Plornish. C'est très obligeant de votre part. Arthur, ne comprenant pas Ce que Madame Plornish voulait dire exprima sa surprise par un regard qui provoqua l'explication suivante. Quand on vient chez de pauvres gens, on ne se donne pas souvent la peine d'ôter son chapeau, ajouta Madame Plornish, mais les pauvres gens y font plus d'attention qu'on ne croit.
Ce n'est que cela, répliqua Arthur, tout honteux de penser qu'un acte de civilité aussi simple peut paraître extraordinaire.
Et se baissant pour pincer la joue d'un autre petit enfant qui était assis par terre, en le regardant avec de grands yeux, il demanda quel âge avait ce beau garçon.
« 4 ans à peine, monsieur, répondit Madame Plornish. Il est solide pour son âge, n'est-ce pas, monsieur?
Mais celui-ci n'est pas aussi bien portant, ajouta-t-elle, en berçant tendrement le poupon qu'elle tenait dans ses bras. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur, de vous demander s'il s'agit de quelque besogne à faire.
Elle faisait cette question avec une anxiété si visible que si Arthur eût possédé une bicoque quelconque, il eût fait immédiatement ajouter un pied de plâtre à tous les murs plutôt que de répondre non. Mais malgré sa bonne volonté, il ne put répondre autre chose que non. Elle vit que les traits de Madame Plornish se rembrunissaient un peu, tandis qu'elle réprimait un soupir et regardait le feu presque éteint. Il vit en même temps que Madame Plornish était une fort jeune femme à qui la pauvreté avait appris à être peu soigneuse de sa personne ou de son entourage et que les efforts combinés de la pauvreté et des enfants l'avaient tellement avancée que son visage était déjà creusé de rides.
« On dirait que toute besogne, bonne ou mauvaise, reprit Madame Plornish, est rentrée sous terre en vérité. » Cette remarque de Madame Plornish ne s'appliquait qu'aux travaux de plâtrerie proprement dit. Elle ne songeait nullement au tripotage ou replâtrage du ministère des circonlocutions de la famille Mollusque.
« Est-il donc si difficile de trouver de l'ouvrage ?» demanda Arthur Clennam.
« Plornish n'en trouve jamais. Il n'a pas de chance. Non, vraiment, il n'en a pas. »
Madame Plornish avait parfaitement raison. Dans ce voyage terrestre que nous faisons tous, Plornish représentait un de ces nombreux piétons qu'on dirait affligés de certains corps surnaturels qui les empêchent de marcher aussi vite que les autres, ou même de rejoindre les plus boiteux d'entre leurs compagnons de route.
Plein de bonne volonté, industrieux, doué d'un cœur fort tendre et d'une tête qui n'est pas trop dure, Plornish acceptait son sort avec toute la résignation possible. Mais le sort le traitait d'une façon bien rude. Il arrivait si rarement que quelqu'un parût avoir besoin de lui, c'était un si grand hasard quand on mettait ses talents en réquisition, que l'esprit nuageux de Plornish n'y comprenait rien. Il prenait donc les choses comme elles venaient. Il tombait dans toutes sortes de difficultés et s'en tirait tant bien que mal. Mais, à force d'y tomber, il ne se relevait jamais qu'avec de nouvelles meurtrissures.
« Ce n'est pourtant pas faute de courir après l'ouvrage, vraiment !» ajouta Madame Plornish, ouvrant les yeux tout grands et cherchant la solution du problème dans la grille où brûlait du charbon de terre. « Ce n'est pas non plus faute de travailler de bon cœur lorsqu'il trouve de la besogne. Personne ne peut reprocher à mon mari d'avoir jamais plaint sa peine. D'une façon ou d'une autre, ce malheur était commun à presque tous les locataires de la cour du cœur saignant. De temps en temps, on entendait bien des gens se plaindre en termes pathétiques de ce que les bras manquaient et de ce que la main-d'œuvre était chère, ce qui les indignait beaucoup, comme s'ils eussent eu un droit absolu d'imposer des conditions à la main-d'œuvre. Mais cette disette de bras ne profitait jamais aux habitants de la cour du cœur saignant, bien qu'il n'y ait pas en Angleterre une cour où l'on rencontre des travailleurs plus infatigables. La noble et illustre famille des Mollusques avait toujours été trop occupé à maintenir le grand principe gouvernemental pour songer à une question si peu importante, qui d'ailleurs ne pouvait en rien les aider à en arriver à leur fin, c'est-à-dire à évincer toutes les autres nobles et illustres familles du royaume, excepté celles de leurs alliés, les Deséchasses. Tandis que Madame Plornish s'exprimait ainsi sur le compte de son seigneur et maître, celui-ci fit son apparition. 30 ans, joues lisses, teint rosé, favori roux, jambes longues, un peu faibles vers les genoux, air borné, veste de flanelle, habit couvert de taches de chaux.
Voilà Plornish, monsieur.
Je suis venu, dit M. Clennam en se levant, vous demander la faveur de quelques moments d'entretien
au sujet de la famille Dorrit. Pleurniche prit un air défiant. Il crut flairer un créancier et dit « Ah oui, très bien. Je ne vois pas ce que je puis vous apprendre concernant la famille. Et de quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?»« Je vous connais mieux que vous ne croyez, » dit Clennam en souriant. Pleurniche fit remarquer, mais sans sourire le moins du monde, qu'il n'avait pourtant pas le plaisir de connaître son visiteur. « Non, répondit Arthur, mais quoique je n'ai pas été témoin des bons offices que vous avez rendus à la famille, je tiens mes renseignements de bonne source. Ils me viennent de la petite Dorrit. Je veux dire, reprit-il, de mademoiselle Dorrit.
« Vous êtes donc, monsieur Clennam. Oh, on m'a parlé de vous, monsieur. »
« Et vous aussi, on m'a parlé de vous et de votre femme, dit Arthur.
« Soyez assez bon pour vous rasseoir, monsieur, et regardez-vous comme le bienvenu. »
« Mais oui, continua Pleurniche, prenant lui-même un siège et posant sur ses genoux l'aîné des deux enfants, car c'était pour lui une contenance que de pouvoir parler à un étranger par-dessus la tête de son fils. « Je me suis trouvé moi-même du mauvais côté de la prison un beau matin, et c'est comme cela que j'ai fait connaissance avec mademoiselle Dorrit. Ma femme et moi, nous connaissons parfaitement mademoiselle Dorrit. Nous la connaissons intimement, » s'écria madame Pleurniche. Il faut dire que Madame Pleurniche était si fière de cette intimité qu'elle avait soulevé certaines animosités dans l'âme de ses voisines, en exagérant outre mesure la somme pour laquelle le père de Mademoiselle Dorrit était détenu. Les cœurs saignants ne lui pardonnaient pas de connaître des personnages si distingués. J'ai d'abord fait connaissance avec son père, et ayant fait connaissance avec son père, voyez-vous, j'ai fait connaissance avec elle, reprit M. Pleurniche, se rendant coupable d'une tautologie sans le savoir. « Je comprends. Ah, voilà ce que j'appelle des manières comme il faut. Voilà de la politesse. Et dire qu'un gentleman aussi distingué reste enfoui dans une geôle. « Vous ne savez peut-être pas, » dit Pleurniche, baissant la voix et parlant avec une admiration ridicule de ce qui aurait dû exciter plutôt sa pitié ou son mépris, « vous ne savez peut-être pas que Mademoiselle Dorrit et sa sœur n'osent pas lui avouer qu'elles sont obligées de travailler pour vivre. Non, continua Pleurniche, qui regarda d'abord sa femme, puis tout autour de la chambre, avec une expression de triomphe fort risible, elle n'oserait pas, elle n'oserait jamais lui avouer ça.
Sans trop admirer M. Dorrit pour ce fait, remarqua tranquillement M. Clennam, je le plains beaucoup.
Cette observation parut suggérer pour la première fois à M. Pleurniche une vague idée que le trait qu'il venait de citer pouvait bien, après tout, n'avoir rien de très recommandable. Il y réfléchit un instant, puis il renonça à résoudre le problème. « Quant à moi, reprit-il, M. Dorrit est certainement aussi affable envers moi que je pouvais l'espérer. Vu la distance qu'il y a entre nous, il a même été beaucoup plus affable que je ne devais m'y attendre. Mais nous étions en train de causer de Mademoiselle Dorrit, et non pas de son père. C'est juste. « Comment l'avez-vous présenté chez ma mère ?» M. Pleurniche détacha de ses favoris un petit morceau de chaux, le mit entre ses lèvres, le retourna avec sa langue comme si c'eût été une dragée, se trouva incapable de donner une explication lucide et chargea sa femme de la réponse en disant « Sarah, raconte donc comment les choses se sont passées, ma vieille. » « Mademoiselle Dorrit, dit alors Sarah, berçant le poupon dans ses bras, et posant son menton sur la petite main qui cherchait à déranger de nouveau les plis de son corsage, est venue ici une après-midi avec un bout d'écriture, disant qu'elle voulait trouver de l'ouvrage comme couturière, et elle nous a demandé s'il n'y aurait aucun inconvénient à donner son adresse chez nous. Ici, Pleurniche répéta son adresse chez nous à mi-voix, comme s'il se fût trouvé à l'église, et qu'il eût récité les litanies. Moi et Pleurniche, nous lui avons dit « Mais non, mademoiselle Dorrit, aucun inconvénient. » Pleurniche répéta « Aucun inconvénient. » Pour lors, elle a écrit notre adresse sur le papier. Même que moi et Pleurniche, nous lui avons dit « Oh, mademoiselle Dorrit. » Pleurniche répéta « Oh, mademoiselle Dorrit, n'avez-vous pas pensé à en faire plusieurs exemplaires pour les répandre davantage ?»« Non, dit mademoiselle Dorrit, je n'y avais pas pensé, mais je vais le faire. » Elle les copia donc sur cette table que voilà. Et vraiment, comme c'était bien écrit, si bien que Pleurniche en emporta chez le gentleman pour qui il travaillait. Il avait de la besogne à ce moment-là. Pleurniche répéta « de la besogne à ce moment-là ». Et aussi chez le propriétaire de la cour, par qui Mademoiselle Dorit a été recommandée à Madame Clennam. Pleurniche répéta « recommandée à Madame Clennam ». Et Madame Pleurniche étant arrivée à la fin de son discours, fit semblant de vouloir manger la petite main qu'elle se contenta d'embrasser. « Le propriétaire de la cour, dit Arthur Clennam, se nomme ?»« Il se nomme Monsieur Casby, monsieur. Voilà comment il se nomme, répondit Pleurniche. Casby et Panks, qui vient toucher le loyer tous les samedis. » « Voilà, ajouta M. Pleurniche, appuyant sur cette proposition avec une lenteur rêveuse qui semblait n'avoir aucun motif spécifique et n'aboutir à rien, voilà à peu près tout ce que c'est. Vous me croirez si vous voulez. « Comment ? » répliqua M. Clennam, devenu rêveur à son tour. « Monsieur Casby, c'est une de mes vieilles connaissances. » M. Pleurniche, ne trouvant là aucun sujet de commentaire, n'en fit pas. Arthur Clennam, n'ayant vraiment aucune raison d'insister sur cette circonstance, arriva au véritable motif de sa visite, qui était de se servir de l'intermédiaire de Pleurniche pour faire relâcher Tip, afin que ce jeune détenu ne perdit pas l'habitude de compter sur lui-même et sur ses propres ressources, si toutefois il n'avait pas déjà perdu jusqu'au dernier vestige de cette honnête confiance en lui-même, car c'était une supposition hardie. Comme Pleurniche avait appris de la bouche même du créancier les motifs de l'incarcération, il déclara à M. Clennam que c'était un certain chantre, non pas un chantre de paroisse, mais un marchand de chevaux de ce nom, et que lui, Pleurniche, pensait qu'en offrant 50%, on ferait très bien les choses, que ce serait même jeter son argent par les fenêtres que de rien offrir de plus. M. Clennam et son intermédiaire ne tardèrent pas à monter dans un cabriolet et se dirigèrent vers High Holborn. Là, ils se firent descendre devant la cour d'une écurie où un magnifique cheval hongre à robe grise, lequel valait au moins 75 guinées, sans tenir compte des balles de plomb qu'on lui avait fait avaler pour améliorer ses formes, était à vendre pour un simple billet de 20 livres sterling, attendu qu'il avait pris le mort aux dents la semaine passée, malgré les efforts de Madame la capitaine Barbary de Chatham, écuyère peu capable de monter un cheval de race et qui, dans son dépit, avait la sottise de le mettre en vente à un rabais ridicule. Disons le mot, de le donner pour rien. Pleurniche entra seul dans cette cour, laissant M. Clennam dans la rue. Il y rencontra un gentleman à pantalon de drap brun très étroit, coiffé d'un chapeau un peu râpé, armé d'une petite canne à bec de corpin et orné d'une cravate bleue, le capitaine Marron du Gloucestershire, ami intime du capitaine Barbary, qui se trouvait là par hasard, par pure obligeance, tout prêt à raconter l'histoire de cet admirable hongre à tous les fins connaisseurs que les annonces pourraient conduire vers l'écurie pour profiter sans retard d'une occasion incroyable. Ce gentleman, qui se trouvait justement le créancier de l'affaire Tip, renvoya M. Pleurniche à son avoué, refusa de traiter avec M. Pleurniche ou même de lui permettre de rester dans la cour, à moins que M. Pleurniche ne s'y montrât avec un billet de 20 livres sterling. Alors seulement le capitaine Marron, jugeant d'après les apparences que M. Pleurniche avait des intentions sérieuses, consentirait à s'entretenir avec lui. Profitant de cet avis, M. Pleurniche se retira pour conférer avec M. Clennam et revint avec la lettre de créance indispensable. Alors le capitaine Marron lui dit « Eh bien, combien vous faut-il de temps pour payer les 20 guinées qui restent ? Tenez, je vous accorde un mois. » Cette offre n'étant pas acceptée, le capitaine Marron ajouta « Tenez, voici tout ce que je puis faire. Vous me remettrez un bon billet à 4 mois, payable chez un banquier, pour le reste. » Voyant que cela ne lui convenait pas davantage, le capitaine Marron poursuivit « Eh bien donc, voici mon dernier mot. Vous me donnerez encore 10 guinées comptant, et je vous tiens quitte. » Voyant que cela ne pouvait pas aller non plus, le capitaine Marron reprit « Tenez, finissons-en et n'en parlons plus. Votre ami n'a pas bien agi avec moi, mais n'importe. Ajoutez encore 5 guinées et une bouteille de vin, et c'est une affaire réglée. Si cela vous va, dites oui. Sinon, qu'il n'en soit plus question. » Enfin, Pleurniche ayant signifié qu'il ne voulait pas non plus de cette dernière condition, le capitaine Marron termina en disant « Allons, passez-moi votre billet alors !» et, conformément à la première offre, donna une quittance pour solde de tout compte et libéra le prisonnier. « Monsieur Pleurniche, dit Arthur, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour me garder le secret. Si vous voulez bien annoncer au jeune homme qu'il est libre et que vous avez été chargé de transiger avec son créancier par une personne qu'il ne vous est pas permis de nommer, non seulement vous m'obligerez, mais peut-être rendrez-vous en même temps un service au jeune type et à sa sœur. » « Cette dernière raison est plus que suffisante, monsieur, » répondit Pleurniche. « Je ferai ce que vous désirez. » »« Vous pouvez dire, si vous voulez, qu'un ami a désintéressé son créancier. Un ami qui espère que Tip fera un bon usage de sa liberté, quand ce ne serait que par amour pour sa sœur. « Je ferai ce que vous désirez, monsieur. Et si vous vouliez être assez bon, vous qui connaissez la famille mieux que moi, pour communiquer avec moi en toute liberté, et m'indiquer comment je pourrais me rendre vraiment utile à la petite Dorit sans la blesser, je vous serai très reconnaissant. Ne parlez pas de ça, monsieur. Ce sera à la fois un plaisir et un... à la fois un plaisir et un... » Pleurniche, après ces deux vaines tentatives, se trouvant incapable de mettre sa phrase en équilibre sur ses pieds, prit le parti fort sage de la laisser boiteuse. Il prit la carte de M. Clennam et accepta une gratification pécuniaire. Il avait hâte de s'acquitter de sa commission, et M. Clennam approuvait cet empressement, ce dernier ayant donc proposé à son intermédiaire de le descendre devant la porte de la prison pour dette. Ils traversèrent le pont de Blackfriars et se dirigèrent de ce côté. Pendant ce trajet, Arthur obtint de son nouvel ami un exposé sommaire assez confus de la vie intime des habitants de la cour du cœur saignant. « Tout le monde y était gêné, » disait M. Pleurniche, « mais bien gêné, ce qui s'appelle. » Quant à lui, il ne savait pas comment cela se faisait et ne connaissait personne qui pût le lui dire. Mais enfin, la chose sautait aux yeux. Quand un homme sentait, en se tâtant dans tous les sens, qu'il était pauvre, il n'y avait pas à lui dire qu'il ne l'était pas. Il le savait bien, peut-être. Les paroles n'y font rien. Autant vaudrait-il supposer qu'elles peuvent vous mettre un beefsteak dans l'estomac. Et puis, voyez-vous, il y avait des gens à leur aise, et encore notez que bon nombre de ces gens-là dépensaient tout ce qu'ils avaient, et quelquefois un peu plus, à ce que Pleurniche avait ouï dire, qui criaient que le peuple de la cour du cœur saignant était imprévoyant, selon leur expression favorite. Par exemple, si ces gens-là voyaient un homme monter dans un char à bancs avec sa femme et ses enfants, pour aller, une fois par an peut-être, se promener à Hampton Court, il se mettait tout de suite à crier « Hola, je croyais que vous étiez pauvre, mon imprévoyant ami. » Mais, bon Dieu, n'est-ce pas bien dur? Comment faire? On ne pouvait pourtant pas se laisser mourir de chagrin. Et quand cela serait, le monde n'y gagnerait rien. Bien plus, dans l'opinion de M. Pleurniche, il était même probable que le monde y perdrait. Malgré ça, on avait l'air de vouloir réduire les gens à finir par devenir fous. On ne manquait pas une occasion de les désespérer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez un peu la jolie vie qu'on menait dans la cour. Voilà les filles et leurs mères cousant, bordant des souliers, brodant et faisant des gilets du matin jusqu'au soir, pour arriver à ne pas mourir de faim, et n'y réussissant pas toujours. Voilà des ouvriers de presque tous les métiers possibles, qui ne demandent pas mieux que de travailler et qui ne trouvent pas d'ouvrage. Voilà des vieillards qui, après avoir travaillé toute leur vie, sont obligés de se laisser renfermer dans le dépôt de mendicité, où ils sont moins bien logés et plus mal nourris que les malfaiteurs. Ma parole d'honneur, un homme ne savait de quel côté se retourner pour ramasser une miette de consolation. Quant à savoir à qui la faute, Pleurniche n'en savait rien. Il pouvait bien vous dire qui est-ce qui souffrait, mais non pas qui est-ce qui faisait souffrir les autres. Ce n'était pas à lui à faire cette découverte-là. Et quand il la ferait, qui est-ce qui voudrait l'écouter? Seulement, il voyait bien que ceux qui se chargeaient de ce genre de besogne ne remédiaient pas au mal, et que le mal ne disparaissait pas de lui-même. Bref, son opinion illogique était que ce n'était pas la peine de l'imposer pour faire une besogne qui ne se faisait pas. Ses idées n'allaient pas au-delà. Voilà comme, à sa manière, dans son langage prolixe, mécontent mais sans colère, Pleurniche, qui n'était pas un génie, cherchait à démêler l'écheveau embrouillé de sa position sociale, semblable à un aveugle qui chercherait une aiguille dans une botte de foin, jusqu'au moment où le cabriolet s'arrêta devant la maison de la maréchaussée. Là, il quitta M. Clennam, occupé pendant ce temps-là à se demander combien de milliers de pleurniches il pouvait y avoir à une journée ou deux de distance du ministère des circonlocutions, jouant le même air avec variation, sans que cette glorieuse institution en entendît seulement le refrain arriver jusqu'à ses oreilles.